Le glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, l'œdème maculaire ou encore la rétinopathie diabétique. La clinique d'optométrie des îles, membre OptoRéseau, à la fine pointe de la technologie.
Prenez note qu'à la fin du trait prolongé, il sera exactement midi.
Vous écoutez CFIM, la radio au cœur de votre quotidien, aux îles de la Madeleine.
Bon midi, mesdames et messieurs, ici François Delisle au micro, et voici vos informations. La pollution plastique est omniprésente dans les zones littorales de l'Est du Canada, selon un rapport publié par Organisation Bleue. Cette conclusion émane de l'analyse de 20 tonnes de déchets prélevées lors de 91 nettoyages des berges entre 2019 et 2023, notamment durant un passage aux îles dans le cadre de l'expédition bleue. Anne-Marie Asselin, fondatrice et directrice générale de l'organisme, explique que cette démarche a permis de collecter des données inédites sur la pollution plastique dans le réseau hydrique du Saint-Laurent.
On fait le recensement des déchets, donc on va catégoriser les bouteilles, les pailles, les engins de pêche, mais on va jusqu'à même marquer les marques qu'on va voir sur les items plastiques qui sont bien intacts encore. Donc, on va recenser des marques comme Tim Hortons, Nestlé, Pepsi, mais on pourrait aussi parfois trouver des objets un peu loufoques. On a déjà trouvé une pinte de lait de l'île du Prince-Édouard aux îles de la Madeleine. On a trouvé une pancarte électorale de Charlevoix à Matane. Et on a trouvé aussi des bouts de bacs de recyclage de Bécomo aux îles.
Selon le rapport, la répartition observée des déchets démontre une accumulation significative en aval des grands centres urbains, soit dans les régions de l'estuaire et du golfe, ainsi que sur les côtes de l'Atlantique. Le document indique aussi que les mégots de cigarettes, les morceaux de plastique et les petits objets en styromousse trônent au sommet des sous-catégories de déchets les plus recensés entre 2019 et 2023. L'organisme souligne par ailleurs que les répercussions et le mode de vie des Canadiens sont atrocement visibles sur l'île d'Anticosti et qualifie son littoral de dépotoir à ciel ouvert. Devant ces constats, Mme Asselin, qui est aussi biologiste marine, souhaite que ces données puissent aider à réduire les impacts de ce phénomène.
Ce projet-là s'échelonne sur quasiment 10 ans. Et notre vision ultime, c'est d'être capable de prédire la pollution pour cibler vraiment les efforts là où nécessaire. Je vous donne un exemple concret. L'ouragan Fiona qui a eu lieu en 2022, qui a frappé très fort. Dans une perspective future, on serait peut-être capable de dire qu'il y a une agglomération de déchets qui va être apportée par les courants à tel endroit. Et donc, on pourrait cibler des efforts de dépollution à ce moment-là. Ensuite, l'intelligence artificielle aussi nous aide à modéliser les courants, l'incidence de la pollution.
Rappelons que la présence de plastique dans la nature représente un risque de blessure et d'étranglement pour les animaux, en plus de nuire à leur alimentation. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec craint qu'un nouveau règlement du gouvernement limite l'autonomie professionnelle des médecins et nuise à la prise en charge de patients. Pour s'assurer de diminuer l'attente pour les usagers orphelins les plus vulnérables, Québec veut dorénavant qu'un médecin décidant de suivre un patient sans passer par le guichet d'accès au médecin de famille justifie qu'il est approprié de le faire. Selon le président de la FMOQ, le Dr Marc-André Amiotte, cette mesure est contre-productive.
Si on lui interdit de le prendre, ben, le médecin n'appellera pas au guichet pour dire « envoyez-moi un nouveau patient ». Le patient qui est en face de lui ne sera pas inscrit et le médecin n'appellera pas au guichet pour prendre un nouveau patient. Donc, on se retrouve avec, sur papier, quelque chose qui est tout à fait louable. Dans les faits, ça passe pas le test de la réalité.
La responsable locale du guichet d'accès à la première ligne, la docteure Christine Paquet, est du même avis. À ses yeux, cette réforme risque de compliquer la prise en charge de nouveaux patients, surtout qu'ici, les cas les plus vulnérables sont déjà suivis.
Tous les patients priorisés A au guichet d'accès sont transférés, puis on tente de les prendre en charge dans quelques semaines. Tous les patients priorisés B sont transférés au GAP. Donc, c'est sûr que ça leur donne pas un médecin de famille, mais ça leur donne accès quand même à des rendez-vous, puis pas obligé de passer à l'urgence pour des problèmes non urgents. Donc, on a tenté au moins de rendre ça un petit peu moins difficile pour ces gens-là.
Convaincu que le gouvernement rate la cible en voulant encadrer davantage la prise en charge, le docteur Amiotte pointe plutôt du doigt la pénurie de médecins de famille au Québec.
Il y a une pénurie d'au moins 1 500 à 2 000 médecins de famille au Québec. Il faut être réaliste, là. On ne pourra pas offrir un médecin de famille à tous les Québécois et Québécoises.
Il ajoute qu'avec cette disposition législative, le gouvernement pousse des médecins à modifier leurs pratiques pour faire moins de consultations, voire à quitter la profession en prenant une retraite anticipée. Le projet de règlement sera officiellement déposé ce mercredi. La tournée de consultation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au sujet des permis d'acquéreurs de produits marins est terminée. Des rencontres privées se sont tenues sur l'archipel, en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord pour discuter des critères de délivrance des permis et la pertinence de les adapter aux nouvelles réalités commerciales. Par courriel, le MAPAC indique que la séance madelinienne s'est bien déroulée et qu'il y a eu une bonne participation des représentants des pêcheurs et des transformateurs, qui sont les principaux intéressés. Des intervenants socio-économiques étaient aussi invités à se prononcer. Le ministère refuse toutefois de divulguer l'information sur le contenu des consultations, puisque la firme consultante TAC Conseil se trouve à l'étape de rédaction du rapport. La mouture finale du document sera transmise aux fonctionnaires du MAPAC qui en feront l'analyse avant de soumettre des recommandations au ministre André Lamontagne. Il n'a pas été possible de confirmer que le rapport sera rendu public une fois complété. Et finalement, les gagnantes du volet local de secondaire en spectacle représenteront la région lors du rendez-vous pan-québécois qui se déroule à Thetford du 30 mai au 2 juin. Le numéro « Je voudrais voir la mère » des madeliniennes Mélia Bourque, Charlotte Hubert, Noémie Leblanc, Florence Noël, Léonie Noël et Romy Soumara a remporté la finale régionale qui se tenait jeudi dernier à l'école polyvalente de Passepébiac dans la catégorie « Interprétation ». Les six jeunes prendront part au plus grand rassemblement culturel jeunesse au Québec qui réunira 850 personnes, dont une délégation régionale d'environ 60 participants. Ultime étape de secondaire en spectacle, le rendez-vous pan-québécois se veut un événement non compétitif axé sur la formation et les rencontres pendant lesquelles les gagnants de partout dans la province présentent leur numéro dans le cadre d'un spectacle d'envergure professionnelle. Les madeliniennes se sont démarquées parmi 16 numéros provenant des 7 écoles du Centre de service scolaire René Lévesque ainsi que de la polyvalente des Îles. Voilà qui complète votre bulletin d'information. Dans quelques instants, la météo et les manchettes sportives. Ensuite, en cette édition de l'émission L'épreuve des faits, on parle d'abord environnement avec Philippe Pesant-Bellemare, puis on parle davantage de ce projet de règlement qui change la façon dont les médecins peuvent prendre en charge les patients.
Mini-jacking, spécialisé en levage de bâtiments et réfection de fondations, sera aux îles de la Madeleine en septembre prochain. Si vous avez un projet, profitez de leur présence sur les îles pour avoir un bon prix. Mini-jacking visitera les îles pour études de projet et soumission en mai prochain. Pour information, appelez Alex Lavoie, 418-330-0505 ou visitez minijacking.ca.
La Légion canadienne vous invite à participer à son bingo du jeudi soir, 21h, diffusé au canaux 2 et 102 de Derry, propulsé par Cogeco et simultanément sur les ondes de CFIM. À gagner cette semaine, un lot de 1 000 $. Pour remporter ce gros lot, sélectionnez soit le 2 ou le 102 sur le câble, jeudi soir, ou écoutez le son de la mer sur votre radio et lorsque vous aurez carte pleine, appelez le 418-969-1340. C'est donc un rendez-vous chaque jeudi soir. 21h au canaux de télévision 2 et 102 pour les amateurs de bingo de la Légion canadienne, aussi diffusé simultanément sur les ondes de CFIM.
Prêt pour un défi éco-responsable? Du 14 au 22 avril, participez au défi éco-engagé Agissons pour notre planète. Réutil, en collaboration avec CFIM, vous propose 9 défis journaliers à réaliser. Rendez-vous sur le Facebook de Réutil ou sur la page concours de CFIM.ca pour connaître le défi du jour et découvrir des idées et des alternatives pour que tout le monde puisse participer. Alors, qu'attendez-vous pour vous inscrire et partager vos photos en taguant Réutil et tentez de gagner jusqu'à 150 $ en bons d'achat. Ensemble, agissons pour notre planète, car chaque geste compte.
Salut, c'est Marc Dupré. On me demande souvent pourquoi l'événement camion de GMC, c'est le moment idéal pour acheter, entre autres, un Sierra 1500 2024. C'est simple. C'était l'événement barbecue. Ben, t'achèterais un barbecue. C'était l'événement adopte un chaton. T'adopterais un chaton. Pis c'était l'événement j'installe des néons en dessous de mon auto. Ben là, j'y penserais deux fois.
Pendant l'événement camion de GMC, obtenez 6 500 $ de crédit à l'achat au comptant sur certains Sierra 1500 2024 sélectionnés. Les conditions s'appliquent. Détails à offre gmc.ca.
Peu importe le temps qu'il fait, l'équipe de Proxime Lapierre et Lapierre vous accompagne à tout moment et vous présente les prévisions météo que voici.
À la météo, on nous prévoit un ennuagement avec 60 % de probabilité d'averse tard cet après-midi. Vent du sud de 20 km/h, maximum de 6 degrés. Ce soir et cette nuit, on nous prévoit un temps généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, nappe de brouillard, minimum de plus 2. Demain, on nous prévoit un temps généralement nuageux avec 30 % de probabilité d'averse tôt le matin, nappe de brouillard, maximum de 7 degrés. Mercredi, on nous prévoit un temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, un maximum de plus 4. Jeudi et vendredi, c'est le retour du soleil. Pour jeudi et vendredi, on nous prévoit du soleil, du vent, un maximum de plus 5 pour jeudi et de plus 6 pour vendredi. Pour la fin de semaine, ça s'annonce pour le moment nuageux avec 60 % de probabilité d'averse samedi, avec un maximum de plus 6 degrés. Et samedi et dimanche, on nous annonce un temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, un maximum de plus 5. Il faudra donc profiter du soleil ce jeudi et vendredi. Et pour le moment, ici à Lavernière, le soleil se montre toujours. Les nuages ne sont pas encore accumulés devant lui. Et le vent souffle à environ 20 km/h à l'aéroport d'Avromaison avec des vents du sud-sud-ouest de 20 km/h.
Chez Proxime, Lapierre et Lapierre, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour vous simplifier la vie et pour profiter de celle-ci. Notre équipe de plus de 60 employés est présente pour vous, jour après jour, afin que votre expérience en magasin soit des plus agréables. Ils vous accueillent avec le sourire et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour vous offrir un service de qualité à la hauteur de vos attentes. Ouvert les lundis, mardis et vendredis de 8h30 à 18h, les mercredis et jeudis de 8h30 à 21h, ainsi que les samedis et dimanches de 9h à 17h, chez Proxime, Lapierre et Lapierre, on est là pour vous.
Ce segment sport vous est présenté par l'Eudesport, votre concessionnaire Honda, qui effectue l'entretien des véhicules de toutes les marques sans exception et peut faire votre changement d'huile sans rendez-vous. Vous n'avez qu'à appeler tôt le matin au 418-986-4085. Honda, la puissance des rêves.
Au sport, d'abord dans la Ligue nationale de hockey, Thomas Hertl a marqué en avantage numérique à 1 minute 23 dans la prolongation et les Golden Knights de Vegas ont effacé un déficit de 3 buts pour vaincre l'Avalanche Colorado 4-3 dimanche. Les Golden Knights tiraient de l'arrière 3-0 après deux périodes, mais William Karlsson a marqué 2 buts pour atteindre le plateau des 30 buts cette saison. Et Ivan Barbashev a aussi trouvé le fond du filet pour forcer la tenue d'une période supplémentaire. Seth Jarvis a marqué 2 buts en avantage numérique en 3e période et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Blackhawks 4-2. Jordan Staal a aussi marqué pour les Hurricanes qui ont signé une 5e victoire de suite pour rester dans la course au titre de la section métropolitaine. Ils se sont approchés à 1 point des Rangers de New York qui trônent au sommet de la section. Les deux équipes doivent toutes deux disputer un dernier match. Au hockey féminin, le Canada bat les États-Unis et remporte l'or au Mondial de hockey féminin. Les Canadiennes se sont donc ainsi réappropriées le titre de championne du monde en l'emportant 6-5 en prolongation contre les Américaines en finale du Mondial de hockey féminin. Ce qui nous amène justement dans la Ligue professionnelle de hockey féminin à reprendre les activités pour le dernier droit de sa première saison, alors que les activités avaient été suspendues pour le championnat du monde de hockey féminin. Le club de Montréal accueillera celui du Minnesota jeudi, tandis que l'équipe de Toronto croisera le fer avec celle de Boston. Les 6 formations de la Ligue professionnelle de hockey féminin doivent encore disputer 5 matchs cette saison, qui culminera le 5 mai avec un duel entre Toronto et Ottawa. Les séries éliminatoires commenceront ensuite dans la semaine du 6 mai. Au baseball, les Blue Jays de Toronto ont octroyé un contrat à Justin Turner lors de la saison morte afin d'ajouter de la fiabilité au bâton et de l'expérience dans l'abri des joueurs. Eh bien, ça semble porter fruit. Turner a réussi 3 coups sûrs et il a produit 3 points pour aider les Blue Jays à blanchir les Rockies du Colorado 5-0 dimanche. Et finalement, au tennis, Stefanos Tsitsipas a battu Casper Ruud 6-1, 6-4 à Monte-Carlo dimanche, remportant ainsi ce Masters sur terre battue. Tsitsipas Grasse gagnait ainsi le tournoi pour la troisième fois en 4 ans. Voilà, c'était vos manchettes sportives.
L'événement Formule Gagnante, c'est l'événement qui vous met au volant d'une valeur gagnante Honda. Comme la Honda Civic, qualité, fiabilité, efficiente et amusante à conduire. Un habitacle rempli de caractéristiques, c'est la voiture la plus vendue au Canada Atlantique. La Civic est en location à partir de $97 par semaine, avec $0 en acompte. Ou encore, choisissez le financement spécial à l'achat à partir de 4,99%. L'événement Formule Gagnante chez Ledesport, votre concessionnaire Honda. Si vous magasinez pour une valeur gagnante, choisissez notre gagnante, la Honda Civic.
Véronique Harvey. Du lundi au jeudi, de 10h à midi, je vous invite à Simplement Véro, où les belles discussions, les petites nouvelles, la bonne humeur et la simplicité sont au rendez-vous. À bientôt!
Pour bien débuter la semaine, c'est au bingo de Cap-au-Meul qu'il faut se rendre ce soir, car la chance pourrait vous sourire de toutes ses dents. Oui, ce sont peut-être vos numéros que le hasard et le boulier choisiront pour remporter l'un des généreux prix totalisant 2 800 $, dont la carte pleine à 1 000 $. 2 800 $ en prix, ça peut faire beaucoup d'heureux. Serez-vous parmi eux? Pour connaître la réponse, soyez présents au bingo de Cap-au-Meul à la salle communautaire de la mairie ce lundi dès 19h.
Me semble que tu serais dû pour changer ton climatiseur pour une thermopompe qui consomme moins d'électricité.
Ah, moi, changer pour changer.
Hey, c'est tout un changement. Surtout avec le nouveau programme Logiver d'Hydro-Québec.
Ça change quoi?
T'as droit à de l'aide financière pour des mesures d'efficacité énergétique. Moi, j'ai obtenu 6 700 $ pour ma thermopompe efficace. Ça te change un budget.
Ah. Puis ça te change une ambiance aussi.
Économisez argent et énergie avec le nouveau programme Logiver d'Hydro-Québec.
Le Dodge Hornet RT hybride rechargeable offre l'équivalent de 3,1 litres au 100 km et une autonomie combinée jusqu'à 573 km. L'autonomie combinée, ça marche pas avec des enfants. Un enfant de 10 ans et un enfant de 15 ans, ça fait pas un adulte autonome de 25. Mais on travaille là-dessus. Y a-tu quelqu'un qui travaille là-dessus?
Passez chez votre concessionnaire Chrysler Dodge Jeep et Ram pour découvrir le Dodge Hornet et vous pourriez obtenir jusqu'à 10 000 $ en remise gouvernementale à l'achat du modèle hybride rechargeable Hornet RT. Visitez Dodge.ca pour plus de détails.
Midi 17 minutes, vous êtes à l'écoute de l'émission L'épreuve des faits. Je suis rejoint en studio par le journaliste Philippe Zambellemare. Bonjour Philippe.
Bonjour François.
Alors Philippe, tu viens de nous parler aujourd'hui d'environnement.
Oui, effectivement. J'ai parlé en fait d'un rapport là, qui a été publié par Organisation Bleue. À titre devoir de mémoire, là, peut-être que vous vous en rappellerez, il y avait Expédition Bleue qui était venue aux îles il y a 2 ans, entre autres, pour faire du nettoyage de plage et pour recenser des types de déchets qu'on retrouve sur le littoral. Ben, ça fait partie ça de Organisation Bleue, donc qui est l'organisme qui chapeautait ça. Et je me suis entretenu donc la semaine dernière avec Anne-Marie Asselin, qui est une fondatrice de cet organisme-là, mais aussi biologiste marine et directrice générale aussi de l'organisme, qui m'a parlé un peu de cette démarche-là qui a mené finalement à la publication d'un rapport là, dans lequel on démontre en fait que la pollution plastique est omniprésente dans le bassin hydrique du Saint-Laurent. Donc ça veut dire toute la région du fleuve, de l'estuaire, le golfe, etc. On retrouve de la pollution plastique partout. Là, par contre, ce qui est intéressant dans le rapport, on constate qu'il y a différents types de plastique, ça ne s'accumule pas de la même manière partout. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on constate que, par exemple, dans le golfe, on récolte en quelque sorte un peu la pollution qui émane des grands centres et qui se ramasse sur nos berges, que ce soit ici ou à Anticosti ou ailleurs dans le golfe. Sans plus tarder, là, je vais laisser la parole justement à Mme Asselin. Dans le fond, je me suis entretenu avec elle la semaine dernière. Je vous laisse écouter l'entrevue. La première question que j'aurais pour vous, Mme Asselin, ce serait de savoir un peu, peut-être si vous pouviez nous expliquer un peu la démarche qui a été entreprise par Organisation Bleue qui a mené à ce rapport-là et aux conclusions auxquelles on arrive.
En fait, depuis 2019, l'Organisation Bleue s'est vue octroyer toutes sortes de mandats vraiment dans l'entièreté de l'Est du Canada, là, fait qu'on parle vraiment des Grands Lacs jusqu'à Terre-Neuve, pour commencer des premières ébauches de recensement de la pollution plastique. C'est un projet qui s'est intensifié, peaufiné, je dirais, vraiment au cours des 5 dernières années pour finalement avoir participé et mené l'expédition bleue sur le Golfe en 2022, dans lequel on a quand même collecté des données qui n'avaient jamais été prises auparavant, notamment sur l'ampleur de la pollution par les microplastiques dans l'eau dans le Golfe. Mais également, on a recensé des berges dans des lieux vraiment dépourvus d'humanité ou très loin des regards. Je pense par exemple à des zones très inaccessibles d'Anticosti, sur laquelle on a eu accès grâce à notre voilier. On est monté presque aux frontières du Labrador, notamment dans des réserves fauniques, des aires protégées, je pense à l'archipel Sainte-Marie par exemple. On a également été à l'île Brion et évidemment, on a trouvé du plastique partout. On a eu beaucoup de couverture médias aussi, ce qui a attiré un peu l'attention du milieu politique. Et finalement, le dossier a été passé l'année dernière officiellement grâce à un programme qui s'appelle Grants and Contributions par le cabinet du ministre Stephen Guilbeault chez Environnement et Changement climatique Canada. Donc, eux nous ont approchés en disant ben, « on travaille sur le fameux projet de loi du bannissement du plastique, mais on manque vraiment de données brutes sur la nature de la pollution qu'on retrouve sur le littoral, qui permettrait finalement au gouvernement fédéral de bâtir une loi qui est représentative de la problématique. » Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé un peu la collaboration avec eux, puisqu'on détenait finalement des clés de réponse sur justement cette problématique-là qui est très émergente, on va se le dire. Et donc, c'est suite, là, un an plus tard, après avoir monté le projet, qu'on est vraiment passé en analyse de toutes nos données. On a fait aussi un grand ménage de cette base de données-là pour la rendre publique. Et on s'apprête là, tout juste à la diffuser sur une échelle provinciale et nationale pour continuer les efforts de recherche dans le domaine, mais également jeter les bases dans une méthodologie qui nous aide à standardiser un peu la recherche sur ce dossier-là et amplifier et accélérer justement la compréhension du dossier à l'échelle nationale. C'est un projet qui est très porteur, qui est aussi très branché sur les technologies et qui est au premier balbutiement, là, finalement, de ce que ça pourrait devenir potentiellement dans le futur.
Puis qu'est-ce qu'on retrouve, justement, tu sais, quand on parle des déchets qui sont omniprésents, tout ça, est-ce que c'est des grandes quantités? Est-ce que c'est des petits déchets ici et là? À quoi ça ressemble, justement, le portrait? Là, qu'est-ce qu'on observe sur le terrain?
Une très bonne question. Le portrait est variable, évidemment. On sait que le bassin hydrographique du Saint-Laurent émerge des Grands Lacs et se déverse vers l'Atlantique. Donc, on observe vraiment une omniprésence des déchets, évidemment, dans tout ce continuum-là, dans tout l'écosystème, qu'il soit d'eau douce ou d'eau salée. Cependant, il y a une tendance alarmante qui émerge de nos analyses. C'est celle où la densité de pollution augmente vers le Golfe et l'Atlantique, qui est en fait une corrélation avec les courants marins. Donc, ce que ça se traduit un peu dans le concret, c'est qu'on se retrouve à Montréal, Québec, dans des lieux densément peuplés. On va retrouver de la pollution, évidemment, partout et de façon assez dense. Mais on se retrouve dans une réserve faunique ou sur Anticosti, par exemple, au beau milieu du Golfe. Et là aussi, on va retrouver énormément de déchets. Et là, la densité augmente de façon alarmante, en fait. Ce qui est vraiment le résultat de la pollution qui émerge de l'amont. Donc, des villes vers l'Atlantique. Ce qu'on retrouve sur les berges, finalement, c'est vraiment le résultat des mœurs des Canadiens dans l'est du pays.
Puis comment justement identifier la provenance de ces déchets-là? Est-ce qu'il y a des méthodes pour pouvoir dire, bon, est-ce que c'est des déchets qui proviennent du Québec ou du Canada ou est-ce que c'est des déchets peut-être qui ont été ramenés par les courants à partir des États-Unis ou d'ailleurs?
Bien, il y a peu de probabilité que des déchets des États-Unis se rendent jusque dans le Saint-Laurent, à moins qu'elles émergent des Grands Lacs. C'est sûr que le recensement, l'audit des marques nous aide quand même à trouver des pistes. À ce niveau-là, par exemple, on se retrouve sur le terrain, on fait le recensement des déchets, donc on va catégoriser des bouteilles, des pailles, des engins de pêche, mais on va jusqu'à même marquer les marques qu'on va voir sur les items plastiques qui sont bien intacts encore. Donc, on va recenser des marques comme Tim Hortons, Nestlé, Pepsi, mais on pourrait aussi parfois trouver des objets un peu loufoques, comme on a déjà trouvé une pinte de lait de l'île du Prince-Édouard aux Îles-de-la-Madeleine, par exemple. On a trouvé une pancarte électorale de Charlevoix à Matane. Et on a trouvé aussi des bouts de bacs de recyclage de Baie-Comeau, bien identifiés, ville de Baie-Comeau, aux îles. Donc, ça indique quand même que les courants sont impliqués, évidemment, dans la problématique. Cependant, les courants, je vous dirais que c'est vraiment une visée pour continuer la recherche, où là, on aimerait approfondir vraiment la nature de ces courants-là, la nature aussi de la présence d'un gyre dans le golfe du Saint-Laurent, qui ferait comme une espèce d'effet de tourbillon, là, finalement, dans le cœur du golfe du Saint-Laurent. Donc, ce volet-là en particulier, c'en est un qu'on souhaite vraiment développer parce que clairement, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais le grand courant global nous indique vraiment que le courant passe des Grands Lacs jusqu'à l'Atlantique.
Et justement, bon, vous êtes biologiste marine. Je pense que votre organisation n'est pas la première à mener ce type d'exercice-là, à moins que je me trompe. Est-ce qu'on constate une évolution de ce phénomène-là au fil du temps? J'imagine que, bon, il y a des efforts qui sont faits pour réduire la pollution, mais en même temps, on consomme plus qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer justement par rapport à comment ça évolue tout ça? Est-ce qu'on peut être optimiste pour la suite des choses?
Oui, d'abord, premier lieu, les études sur la pollution plastique, le recensement des déchets, ça se fait sur l'entièreté de la planète. C'est vraiment une mouvance internationale là, qui est un réel, en fait, résultat de l'enjeu qui est très moderne. Pour l'Est du Canada, par contre, c'est vraiment un trou dans les bases de données internationales. Et nationalement, il y a beaucoup d'efforts de recherche qui ont été menés sur les macroplastiques, donc les débris marins qu'on retrouve sur le littoral, mais plus dans l'Ouest canadien. Donc, notre recherche est vraiment pionnière là, au niveau du territoire à l'étude et aussi pour l'ampleur du territoire. Donc, on couvre vraiment l'entièreté du bassin hydrographique du Saint-Laurent, ce qui donne vraiment beaucoup de précision sur l'impact des courants là, chez nous. Ensuite, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'on peut être optimiste? C'est sûr que les efforts de recherche sont extrêmement importants, puisque quand on comprend quelque chose, on est capable de bien moduler ensuite les solutions. Là, je vous parlais d'une phase 1. T'sais, nous, ce projet-là s'échelonne sur quasiment 10 ans. Et notre vision ultime, c'est d'être capable de prédire la pollution pour cibler vraiment les efforts là où nécessaire. Je vous donne un exemple concret. L'ouragan Fiona qui a eu lieu en 2022, qui a frappé très fort. Dans une perspective future, on serait peut-être capable de dire qu'il y a une agglomération de déchets qui va être apportée par les courants à telle plage, tel endroit. Et donc, on pourrait cibler des efforts de dépollution à ce moment-là. Ensuite, l'intelligence artificielle aussi nous aide à modéliser les courants, l'incidence de la pollution. Mais tout ce recensement-là aussi nous aide à dresser des statistiques comme des top 10 des usages les plus courants. Il y a la responsabilité élargie aussi des producteurs. Donc, la solution, elle n'est pas unique. Elle vient vraiment à plusieurs échelles. Et ben, la recherche nous permet de cibler ces échelles-là finalement. Le fédéral, par exemple, avec le projet de loi sur le bannissement du plastique, c'est un très bon début. Le traité international sur la pollution plastique qui va avoir lieu fin avril à Ottawa, c'en est un exemple super optimiste aussi. Puis ensuite, des projets plus locaux comme la mairesse Valérie Plante à Montréal qui est en train d'implanter des réglementations audacieuses là, pour l'usage de la restauration rapide, par exemple, sur les emballages. Recyc Québec aussi qui est en train de passer la consigne élargie. Donc, beaucoup de projets, en fait, qui sont en train d'être construits, qui reflètent grandement l'urgence d'agir. L'urgence aussi de tous les paliers gouvernementaux de mettre la main à la pâte. Et on espère que notre rapport vient mettre l'emphase sur l'importance et l'urgence d'agir aussi, là.
Et en terminant, est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger qui pourraient nous inspirer au Canada, au Québec ou même aux Îles-de-la-Madeleine pour mieux gérer ces déchets-là et peut-être à la source ou à la sortie?
C'est sûr qu'il y a des communautés ailleurs dans le monde qui font bien les choses. L'Europe est pionnière dans plusieurs domaines. Je pense justement à la législation du plastique à usage unique dans l'Union européenne. Ça fait déjà plusieurs années que le projet est passé. Ils sont en train aussi d'instaurer l'obligation de filtres sur les laveuses pour prévenir le rejet de microfibres dans l'eau. Mais je pense qu'avant de regarder les autres, il faut se regarder intrinsèquement. Regarder nos habitudes, notre propre problématique et se tourner sur des approches qui sont propres à nous. Parce que les déchets qu'on retrouve chez nous sont les nôtres. C'est vraiment le reflet de nos habitudes de consommation en tant que Canadiens et Canadiennes. Mais tu sais, on est proactif au Canada. On a souvent l'impression que la problématique est ailleurs. Le rapport fait la lumière sur le problème, en fait, qui est vraiment ici, c'est rendu chez nous. Et donc, c'est vraiment à nous de se retrousser les manches et trouver des solutions, là.
Donc, Anne-Marie Asselin, fondatrice et directrice générale d'Organisation Bleue et biologiste marine, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bien, merci à vous.
les ondes de CFIM dès 6h mardi. C'est l'émission Debout les îles avec entre autres Rose Prou intervenante en comportement canin, Joël Landry intervenant en dépendance et mes collègues qui vont se joindre à moi, Jean Chevary avec son invité Yves Bourgeois, Véronique Harvey et Raphaël Lapierre. Dès 6h mardi, débutez votre journée à l'émission Debout les îles sur les ondes du son de la mer.
Pour ce deuxième segment de l'émission L'épreuve des faits, on parle santé. C'est que face à la présence de milliers de patients vulnérables en attente sur le guichet d'accès aux médecins de famille, le gouvernement du Québec déposera ce mercredi un projet de règlement qui vient modifier la manière dont les médecins prennent en charge les nouveaux patients. Le but poursuivi par le gouvernement, c'est d'assurer une prise en charge équitable des patients à travers ce guichet unique qui établit des priorités selon l'état de santé des patients. Or, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, selon cette fédération, cette nouvelle façon de faire risque de diminuer l'autonomie professionnelle des médecins, d'alourdir leurs tâches administratives et de nuire à la prise en charge de patients par les médecins. Pour comprendre de quoi il retourne, je me suis entretenu avec le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le docteur Marc-André Amiotte. Je lui ai d'abord demandé comment fonctionnait la prise en charge de patients en ce moment et ce que le règlement allait y changer. Voici sa réponse.
Peu importe où il voit le patient. Par exemple, il peut le voir dans son bureau, dans un sans rendez-vous, et ne pas connaître le patient. Et suite à la consultation, ben il décide ou il juge que le patient a besoin d'un suivi. Donc, il peut l'inscrire à son nom et il avise la RAMQ. Un autre exemple, le patient est hospitalisé et le médecin, lors du congé, dit « ben, je vous donne un rendez-vous de suivi dans une semaine à mon bureau pour faire le suivi de l'hospitalisation. » Et comme le patient aura besoin d'un suivi, dit « je vous inscris à mon nom et ce sera plus facile d'assurer le suivi. » Autre exemple, il peut le voir à la salle d'urgence, même chose. Et de lui dire, ben, je vous donne un rendez-vous de suivi dans une semaine, dans un mois, à mon bureau, et je vous prends en charge à partir de ce moment-là. L'autre exemple, le médecin de famille suit un conjoint, et le conjoint lui demande, prendriez-vous mon conjoint ou ma conjointe comme patient? Elle aurait besoin d'un suivi. Bien, comme on est des médecins de famille, il va de soi de dire, bien, oui, je vais le prendre à mon nom. Alors, ce que le règlement va changer, va faire en sorte que le médecin n'aura plus le choix. Le règlement va dire, vous ne pouvez plus inscrire de patients comme les exemples que je vous ai donnés. Vous devrez absolument passer par le guichet d'accès à un médecin de famille. Alors, le règlement va exiger que tous les patients qui vont être pris en charge passent par le guichet, à moins d'exception. Donc, on évacue le jugement professionnel du médecin. Et après ça, ben, si c'est une exception, donc je le vois à l'hôpital, je lui donne un rendez-vous dans une semaine pour un suivi, puis là je dis, je le prendrai en charge, mais le nouveau règlement ne me permettra pas ça, à moins d'une exception. Et là, l'exception, il faut que j'appelle au GAMEF, au guichet d'accès à un médecin de famille, et que je demande une permission pour inscrire ce patient-là à mon nom. C'est cette lourdeur administrative-là et cette évacuation du jugement professionnel qui nous inquiète. Parce qu'on partage là les mêmes objectifs que le gouvernement, c'est-à-dire que les patients aient un meilleur accès à un médecin de famille, mais la voie choisie par le gouvernement n'est pas la bonne et risque d'avoir l'effet inverse, et c'est ça qui nous inquiète. Les médecins de famille actuellement qui disent « je ne prends plus de patients », parfois voient un patient dans leur bureau, dans leur sans rendez-vous, et là se disent, ben, ce patient-là, parce qu'il est très malade, je vais le prendre. Mais si on lui interdit de le prendre, ou seulement s'il y a des exceptions, ou s'il fait partie des exceptions, Ben, le médecin, il n'appellera pas au guichet pour dire « Envoyez-moi un nouveau patient. » Et c'est là où le patient qui est en face de lui ne sera pas inscrit et le médecin n'appellera pas au guichet pour prendre un nouveau patient. Donc, on se retrouve avec, sur papier, quelque chose qui est tout à fait louable, là, sur papier, qui a une certaine équité et que les patients soient pris en charge selon une priorité. Dans les faits, ça passe pas le test de la réalité. Et c'est là où on dit faut trouver une meilleure façon d'aborder la problématique.
Le docteur Amiot reconnaît que plusieurs patients ont besoin d'un suivi auprès d'un médecin et que, justement, le fait de passer par le guichet d'accès aux médecins de famille est une façon d'accorder une certaine priorité aux besoins des gens, à la lourdeur de leur cas. Cependant, il croit que la source du problème est ailleurs que dans la méthode de prise en charge des patients et que les nouvelles contraintes sur la pratique des médecins n'amélioreront pas la situation.
Il faut être réaliste, là. On ne pourra pas offrir un médecin de famille à tous les Québécois et Québécoises. Cependant, tous les Québécois et Québécoises doivent obtenir des services lorsqu'ils en ont besoin et des services médicaux d'un médecin lorsqu'ils en ont besoin. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il y a une pénurie d'au moins 1500 à 2000 médecins de famille au Québec. Pourquoi? Ben, parce que on a mal planifié les effectifs dans les 10-15 dernières années. Heureusement, le gouvernement a augmenté le nombre d'étudiants en médecine dans les facultés de médecine. Mais je vous rappelle, ça prend au moins 7 ans à former un médecin de famille, donc on verra les effets. On est en rattrapage des erreurs de planification des dernières années et on a augmenté les cohortes d'étudiants en médecine, mais encore faut-il que ces étudiants-là choisissent la médecine familiale. Et c'est ça, là, cette problématique-là, elle n'est pas encore résolue parce que à chaque année, 50 à 80 postes de formation en médecine familiale dans les universités ne sont pas comblés. Et ça, depuis 12 ans, là, c'est 600 médecins qu'on n'a pas formés au Québec. C'est 600 médecins de moins. Imaginez-vous ce qu'on ferait avec 600 médecins de plus au Québec. On n'en serait pas avec les problématiques qu'on vit actuellement. Toute la notion de la valorisation de la médecine familiale, de l'attractivité de la médecine familiale et le suivi de clientèle en cabinet n'a plus la cote, là. On met beaucoup de contraintes sur le dos des médecins. Ils sont inondés par la paperasse. On leur en met de plus en plus sur les épaules. Hein. Près de 20 à 25% de leur travail, là, presque 10 heures par semaine, sont consacrés à du temps pour remplir des formulaires, faire de la paperasse, reviser les laboratoires. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant et on doit s'attaquer à ça si on veut rendre davantage attractive et valoriser la profession pour que les étudiants la choisissent, cette profession-là.
À la suite du portrait qu'il brosse de l'état de la situation, j'ai demandé au Dr Amiot quel impact il croit que ce projet de règlement aura sur la population qui a besoin d'un médecin de famille.
Et à court terme, les effets seront insidieux et comme je vous disais, ça aura probablement l'effet inverse. À moyen-long terme, ça risque de précipiter ces médecins-là face à un découragement de contraintes supplémentaires de retraite prématurée. Hein. Je vous dis, même le Collège des médecins confirme, on voit de plus en plus de médecins qui, dans la cinquantaine, prennent leur retraite. On voyait pas ça il y a 10 ans, là. On voyait des médecins qui prenaient leur retraite à 65, 70, 75 ans. Maintenant, là, on voit des médecins qui prennent leur retraite dans la cinquantaine, jusqu'à 52 ans. Pour nous, ça nous préoccupe. Donc, qu'est-ce que ça a comme effet pour la population? À moyen terme, vous n'aurez plus de médecin de famille. On va insidieusement les pousser soit vers le privé, soit vers une autre province, soit vers une retraite prématurée.
Docteur Marc-André Amiot, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Pour comprendre ce que ce projet de règlement a comme impact plus précisément sur nous aux îles, je me suis entretenu avec la docteure Christine Paquet, responsable du guichet d'accès à la première ligne sur l'archipel. On écoute tout de suite après une courte pause.
CFIM a le plaisir de vous annoncer les noms des heureux gagnants de son bingo de samedi dernier. Le 13 avril, une fois 54 numéros nommés et après vérification, mesdames Danielle Chiasson avec une carte achetée chez Station Deli et Jacinthe Poirier avec une carte provenant du dépanneur de la plage se sont partagés le gros lot de 5 000 $ tirés au bingo du son de la mer. Félicitations à vous, mesdames, et merci à toutes celles et ceux qui participent à ce rendez-vous radiophonique hebdomadaire chaque samedi, 18h. Prochain gros lot, 1 000 $. Bonne chance!
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission L'épreuve des faits. Ici François Delisle au micro. Nous poursuivons en santé sur le projet de règlement du gouvernement du Québec qui vise à changer la manière dont les médecins peuvent prendre en charge de nouveaux patients. Pour comprendre l'impact de ce règlement sur la population des îles, je me suis entretenu avec la docteure Christine Paquet, qui pratique ici dans l'archipel et qui est responsable du guichet pour l'accès à la première ligne. Je lui ai d'abord demandé si elle croyait que les changements annoncés allaient avoir un impact sur la prise en charge de patients aux îles. Voici sa réponse.
Je pense pas que ça sera un obstacle à la prise en charge parce que je pense que quelqu'un qui veut prendre en charge des gens va prendre en charge des gens. Donc, je pense que ça va être un obstacle peut-être à la convivialité puis à l'autonomie professionnelle puis au fait de dire, ben, tu sais, j'ai eu une belle relation avec cette personne-là. Je pense que ça va être un bon fit parce qu'on s'entend bien qu'une prise en charge, une relation patient-médecin, c'est une relation. Ce qui va changer, c'est la convivialité. Oh, on s'est rencontrés dans un rendez-vous, on a eu un certain suivi, ça a bien été, j'aimerais bien vous prendre en charge. Ben, peut-être que là, la lourdeur administrative qui se rajoute à toute la lourdeur administrative déjà présente, va dire, ben, je suis désolée, puis on va passer par le GAMEF, puis on va se faire donner des listes par le GAMEF.
Comme ne pas avoir de médecin de famille peut être un facteur de stress hein, si on a besoin d'un suivi, et que justement, le nouveau règlement projet prévoit que les médecins doivent prendre en charge les patients à travers le guichet d'accès aux médecins de famille, j'ai demandé au Dr Paquet de nous expliquer comment faire pour avoir accès à un médecin à travers ce mécanisme. Voici sa réponse.
La porte d'entrée, ça s'appelle le guichet d'accès à la clientèle orpheline, mais il y a un autre nom qui s'appelle le guichet d'accès aux médecins de famille, donc je vais garder l'acronyme GAMEF, guichet d'accès à un médecin de famille, parce que c'est lui qui est le plus utilisé. Donc, si quelqu'un n'a pas de médecin de famille, il faut qu'on sache qu'il n'y a pas de médecin de famille. Donc, la personne doit s'inscrire au GAMEF. Pour ce faire, il peut aller directement en ligne sur le site de la RAMQ, de la Régie de l'assurance maladie, puis il y a un onglet GAMEF, puis avec sa carte d'assurance maladie, il fait l'inscription lui-même avec quelques petites questions faciles. Si quelqu'un n'est pas à l'aise avec l'Internet, il peut appeler à l'hôpital au 418-986-2121 et faire le poste 8422. C'est une boîte vocale, il laisse son nom, puis une agente administrative qui va rappeler pour aider à faire l'inscription au GAMEF.
Donc ça, c'est pour que le gouvernement sache que je n'ai pas de médecin de famille, essentiellement.
C'est vraiment ça. Donc le GAMEF, c'est une structure qui a été mise en place il y a une quinzaine d'années pour répertorier les gens qui n'ont pas de médecin de famille selon une priorité, selon les problèmes de santé et aussi selon une chronologie. Donc, ça donne pas un médecin de famille, mais ça dit, ben là, j'ai levé la main, j'en ai pas de médecin de famille.
Et ça aide au gouvernement et éventuellement aux médecins qui pourraient prendre en charge à évaluer la sévérité du cas, si je comprends bien.
C'est ça. Il y a comme, selon les questions auxquelles ils répondent, ben, il y a des priorités A, B, C, D, E. Les priorités A, c'est les gens qui ont besoin d'un médecin de famille assez rapidement. Aux îles, on dirait que c'est surtout des gens avec des problématiques oncologiques ou psychiatriques aiguës. Puis les E, ben, c'est les gens qui n'ont pas de problème de santé et qui voudraient avoir un médecin de famille.
Aux îles, il y a quand même aussi beaucoup de gens qui ont fait des migrations interrégionales. Et il y en a, on me posait la question, justement, il y a des gens qui sont inscrits auprès d'un médecin de famille dans une autre région encore. Qu'est-ce que ces gens-là doivent faire s'ils veulent avoir un médecin de famille aux îles?
Pour être au guichet d'accès, on doit être orphelin de médecin. Donc, malheureusement, si les gens veulent aller sur le guichet d'accès aux îles, ils doivent se désinscrire de leur médecin de famille. Et pour être sur le guichet d'accès des îles, on doit avoir une adresse sur le territoire.
Donc, il faut être, c'est sur quelqu'un qui réside aux îles et il doit d'abord se désinscrire auprès de son médecin. Et ça, il fait ça auprès de la RAMQ?
Oui.
Donc, à travers le site web de la RAMQ ou en téléphonant à la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec.
C'est vraiment ça. Donc, s'il n'est pas désinscrit à son médecin, il n'est pas orphelin, il ne peut pas être inscrit ici.
Comme certains patients sont inscrits, il y a également le fait que certains patients sont inscrits au GAMEF, le guichet d'accès aux médecins de famille. Il y a certains d'entre eux qui ont aussi accès, sans être inscrits auprès de médecins, à ce qu'on appelle le guichet d'accès à la première ligne, qui permet d'avoir une prise en charge collective des patients par un groupe de médecins. La docteure Paquet nous explique le fonctionnement de ce guichet d'accès à la première ligne, qui donne accès à des soins médicaux à certains patients, bien qu'ils ne soient pas inscrits auprès d'un médecin en particulier.
Ça, c'est les gens qui sont sur le GAMEF. Donc, pour avoir accès au GAP, il faut être inscrit au GAMEF. Et puis là, il y a des gens du GAMEF qui sont choisis par ancienneté encore et surtout par critères les BCDE, dans le sens que tous les patients B ont été transférés au GAP. Donc, les gens qui ont été transférés au GAP et attitrés dans un des sites de pratique aux îles, donc la clinique santé des îles, la clinique Tassoumara et aussi la portion intra-hospitalière. Donc, s'ils ont un problème de santé, ils appellent au 811, puis ils peuvent être transférés à l'infirmière qui s'occupe du GAP. Et cette infirmière-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire une pré-évaluation de leurs problèmes de santé, puis elle va tenter de les diriger à la personne la plus pertinente pour leurs problèmes de santé. Par exemple, si c'est une dame qui a besoin d'une évaluation pour une cytologie, elle pourrait être transférée dans une clinique par les IPS où on fait plus de santé de la femme. Ça pourrait être comme ça. Si c'est un problème médical, mais après ça, ils sont transférés et ils ont un rendez-vous dans la clinique où ils sont attitrés. Donc, c'est un pourcentage des gens du GAMEF qui ont aussi accès au GAP.
Qui sont attitrés à des cliniques, mais pas à un médecin en particulier.
Non, c'est attitré, c'est une prise en charge collective par le lieu de pratique.
Excellent. Et ces patients-là, pour le moment, pourraient, lors du rendez-vous, voir, se faire offrir par le médecin, par exemple, se faire dire « Oui, en raison de votre état de santé, j'accepte de vous prendre en charge. Pour le moment, c'est possible. »
Tout à fait, parce que des fois, les gens vont être vus deux, trois fois par le même médecin de famille, puis après deux, trois fois, ben là, le problème va se continuer, puis là, le médecin va dire « Regardez, je vais vous prendre en charge. On a déjà eu une relation, on voit que ça fonctionne bien, je vais vous prendre en charge. » Fait que oui, il y a des gens qui sont pris en charge via le GAP.
Vu la manière dont fonctionne la prise en charge pour le moment de patients aux îles, j'ai demandé au Dr Paquet si elle trouvait que le projet de règlement du gouvernement répondait bien à l'objectif de prioriser la prise en charge de patients vulnérables, en particulier aux îles. Voici sa réponse.
Puis je pense que le gouvernement, pour essayer de trouver une solution à ces patients vulnérables-là qui ont besoin de soins, bien, je pense que c'est ça la solution qu'ils ont trouvée, parce qu'ils ne savent plus quoi faire, parce qu'il y a trop de patients orphelins. Mais le problème, je pense pas que c'est les médecins de famille qui prennent mal en charge ou qui en prennent pas assez. Je pense que c'est faire patcher un problème plus large. Dans le fond, c'est pour essayer de régler un problème qui est réel. Il y a des patients vulnérables qui attendent longtemps. Donc, c'était ça la raison. Est-ce que c'est la façon de fonctionner? Je pense pas que ça va tout régler.
Aux îles, d'après ce que vous me disiez plus tôt, Dr Paquet, les catégories plus urgentes, ça semble pas être trop un problème. Ils sont pris en charge, si je comprends bien.
Tous les patients priorisés A au guichet d'accès sont transférés, puis on tente de les prendre en charge dans quelques semaines. Tous les patients priorisés B sont transférés au GAP. Donc, c'est sûr que ça leur donne pas un médecin de famille, mais ça leur donne accès quand même à des rendez-vous, puis pas obligé de passer à l'urgence pour des problèmes non urgents. Donc, on a tenté au moins de rendre ça un petit peu moins difficile pour ces gens-là.
Et c'est ça. Et finalement, après ça, pour les gens, le chemin d'accès, on le répète, c'est bien par le guichet d'accès aux médecins de famille, à travers le site web ou en appelant l'hôpital au 96-21-21, le poste
84-22
pour réussir à être inscrit, à avoir de l'aide aux besoins pour s'inscrire pour avoir un médecin éventuellement.
C'est ça, parce que si les gens sont à la maison puis qu'on ne sait pas qu'ils sont orphelins, ils ne seront pas pris en charge. Donc, ils doivent se manifester, lever la main, j'ai besoin.
Voilà qui conclut ces segments sur le projet de règlement proposé par le gouvernement du Québec au sujet de la prise en charge des patients par les médecins de famille. J'espère que ça vous donne une idée un peu de la façon dont cette façon de prise en charge, qui est quand même assez complexe, fonctionne et que ça vous donne quelques repères si vous êtes sans médecin pour réussir à vous inscrire au bon endroit pour en avoir un. Je vous souhaite sur ce, c'est le dernier segment de l'émission. On passe en musique avec les Rolling Stones, Honky Tonk Woman. Thank you.
Oh là là!
Hey, hey, ça fait que tu viens de bord.
J'ai oublié de remplir mon papier pour l'indice de la semaine pour le concours plein gaz au dépanneur du village.
Ben, t'es pas obligé de virer de bord.
Ben, si je vais être éligible au concours puis gagner 100 pièces de gaz, j'ai pas le choix de remplir mon papier.
Mais t'as plus besoin de papier, c'est full secure à ça. Tu peux remplir tes informations sur cfim.ca, dans ton char, dans ton camion, chez vous, sur ton quatre roues, skidoo, n'importe où.
Fais comme ils disent, y a pas de doute. Gaz au bout.
Vous trouvez tout ce que vous cherchez, même des indices pour vous faire gagner 100 $ au concours plein gaz. Dépanneur du village, au cœur de Capomeuse. Tirage à tous les vendredis 16h.
Ici François Delisle au micro. C'est ainsi que se termine cette édition de l'émission L'épreuve des faits. Je remercie l'équipe de journalistes ainsi que vous, chers auditeurs, pour avoir été à l'écoute. Je vous invite à demeurer à l'antenne de CFM pour l'émission Acadie de nos cœurs dans un instant, ainsi que dès 14h, l'émission De long en large animée par Pierre Aucoin. Et je vous dis à demain.
Voici un message d'Antonin Valiquette, maire de la municipalité des Îles.
Chers Madeliniennes et Madelinos, en cette semaine de l'Action bénévole, je voulais prendre le temps pour souligner le dévouement, la générosité et l'impact formidable des bénévoles dans notre communauté. Leur engagement fait toute la différence et est primordial pour les nombreuses activités et initiatives qui émergent chaque jour sur le territoire. J'aimerais également inviter la population à prendre le temps de remercier ces gens qui s'impliquent, que ce soit en leur offrant un simple mot de gratitude, en les encourageant dans leurs actions ou en vous joignant à eux pour faire du bénévolat. Chaque geste compte et contribue à nourrir l'esprit de solidarité et d'entraide qui anime nos îles de la Madeleine.
Bonne semaine de l'Action bénévole du 14 au 20 avril.
Did you know spring herring have been seen on a few occasions in lagoons in the last years? This is why the Comité ZIP needs your help to find spring herring spawning signs. If you see milk, roe, or herring, please take a picture of your observation, take a GPS pin on your cell phone, and call the Comité ZIP at 986-6633. With your observations, the Comité ZIP will be able to go on site quickly and take data. Thank you for your precious observations.
Tête pleine d'idées folles, tu fuyais l'autorité. T'avais le blues, la métropole. On annonçait un bel été, une bagnole et du pays. Tu longeas le fleuve jusqu'ici. Une surprise à mes yeux, c'est qui la jeune femme en bleu? Ta radio jouait du beau dommage. On se prélasse sur la plage. J'enfilais un bel habit pour imiter ton style épique. On partageait une cigarette dans la fumée de deux poètes. Un clin d'œil au bout du quai, je te chantais la pomme. Dimanche au soir à Châteauguay, avec mon charme de jeune homme. Ta radio jouait du beau dommage. On se prélassait sur la plage de la Saint-Jean aux fêtes du 15 août. Je grattais ta Yamaha pour devenir une vedette rock. On fredonnait le Pic-Bois et d'autres succès de l'époque. Dommage que tout a pris fin, t'es parti, mine de rien. Quelque part aux États, j'étais le phoque en Alaska. Ta radio jouait du beau dommage. On se prélassait sur la plage de la Saint-Jean aux fêtes du 15 août.
Mon corps, ma tête sont épuisés. La seule solution que j'ai trouvée, c'est de m'évader pour oublier. Fermer à clé la maison, pris mon passeport pour l'évasion. J'ai sauté dans le premier avion pour me sauver d'une dépression. Voir des shots sur le bord de l'eau, me chauffer la peau d'un pichon. Pour faire une santé mentale avant de finir à l'hôpital. Et manger, me reposer, voilà mon planning chaque journée. Agrémenté d'activités et de rencontres pour socialiser. Si je suis un peu chanceux, je vais peut-être même tomber amoureux. Une belle touriste célibataire, là ce serait parfait mon affaire. Je vais boire des shots sur le bord de l'eau, me chauffer la peau d'un pichon. Pour faire une santé mentale avant de finir à l'hôpital. Thank you.
vieux Québec. Je pars me changer les idées. Je serai touriste pour quelques journées. Les pieds dans le sable à relaxer. Manger dans un tout inclus. Vivre comme un prince d'un coin perdu. Et vacher la face au soleil pour me reposer la cervelle. Plonger les deux pieds dans l'eau tout en buvant des mojitos. On va faire une santé mentale. Nourrir de soleil tropical. Boire des shots du bord de l'eau. Chauffer la peau d'un pays chaud. On va faire une santé mentale avant de finir à l'hôpital.
Vous écoutez CFIM, la radio des îles de la Madeleine.